Mes bien chers amis, le journal Vers Demain, qui vous donne cette émission hebdomadaire, a souvent dénoncé et déploré la propagande communiste faite en notre pays par des individus et des groupes qui bénéficient de l'insouciance des hommes en place, de la publicité qui leur est prodiguée dans les journaux, des tribunes qui leur sont ouvertes dans les grands moyens de diffusion. Aussi sommes-nous heureux de voir enfin une réaction s'amorcer contre cette vermine envahissante qui a surtout exploité le sentiment nationaliste canadien-français pour fomenter un séparatisme fortement chargé de communisme. Il en était temps. Depuis une couple d'années, surtout, à lire les journaux, à écouter les carrefours et autres colloques à la radio et à la télévision, on aurait pu croire que la grosse majorité de la population de Québec était gagnée au séparatisme. Cette publicité a tellement joué que les séparatistes eux-mêmes ont fini par se croire les maîtres des lieux, et ils n'ont pu cacher leur dessein réel. Ils l'ont même proclamé par écrit. Leur but dans l'indépendance, c'est de créer au Québec un État marxiste-léniniste, donc un État communiste de la plus authentique espèce. À l'occasion de la visite de la reine, déclaration, menace, avec rapports privilégiés dans les journaux, ont dépassé toutes les bornes. En elle-même, l'idée d'un Québec indépendant est loin d'être nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la tournure qu'elle a prise en passant sous la coupe d'agitateurs s'inspirant de Lénine et de Castro. Il y a quelques années, quand on parlait de séparatisme, c'est à Raymond Barbeau que l'on pensait. Il propageait proprement et sans arrière-pensée ses arguments en faveur d'un Québec indépendant. Mais les communistes, qui à notre époque s'infiltrent partout où se forment des mouvements pour l'indépendance, ne pouvaient voir de bon œil le séparatisme québécois sous la direction d'un homme de droite comme Barbeau. Il fallait le déplacer et le remplacer, et ce fut fait, par degrés, mais rapidement. Premier instrument, Marcel Chaput, ce qui ne veut pas dire que Chaput voulait le communisme, mais il avait de l'ambition politique, et les communistes exploitent ce qu'ils trouvent, que ce soit la soif des honneurs ou de l'argent, ou que ce soit un faible devant la boisson et les femmes. Et comme les communistes ont des serviteurs bien en place dans les journaux, le fait Chaput devint ad nauseam la vedette du jour, tout au long de son jeûne spectaculaire pour obtenir 100 000 piastres, les journaux nous servirent un rapport quotidien sur l'état physique et moral de Chaput, sur son poids, sa pression, son pouls, sa persévérance, et aussi sur les recettes monétaires répondant à son geste. Chaput, ce fut l'outil de transition. Son deuxième jeûne, ne trouvant plus assez de gogo pour puiser dans leur porte-monnaie, Chaput donna sa démission de chef, et le sceptre passa au RIN, Fondation de l'Allemagne, mouvement séparatiste de gauche, devenu encore plus gauchiste depuis. Et aujourd'hui, ce RIN est dirigé par Pierre Bourgault, qui se déclare ouvertement marxiste-léniniste agnostique. Et les journaux ont fait à ce Bourgault une publicité plus généreuse qu'à la reine. De la publicité généreuse aussi à Guy Pouliot, une autre teneur du séparatisme. Également à l'ALQ, au FLQ, au RIQ et à tous les autres Q de l'extrémisme. Mais venons aux heureuses réactions qui se manifestent actuellement. Les unes hardiment, d'autres qui se croient encore obligées de présenter un baume après avoir frappé par des mises au point qui atténuent les effets des coups donnés. Du côté du gouvernement de Québec, on semble avoir saisi qu'il est temps de mettre un cran d'arrêt à l'audace, au toupet, à l'anarchisme, au piétinement des valeurs fondamentales de notre civilisation dont font preuve des jeunes tête excitée, dont plusieurs ont accès à une instruction supérieure grâce aux taxes des contribuables. Un cran d'arrêt aussi au jaunisme, au sensationnel, à la déformation des faits, au soufflé que presque tous nos journaux ont servi en pâture aux lecteurs, donnant à l'étranger une fausse idée du Québec, faisant passer notre province pour un théâtre de rébellion à la veille d'une guerre civile. C'est d'abord le nouveau ministre, M. Wagner, aujourd'hui procureur général du Québec, qui releva l'appellation de samedi de la matraque que Le Devoir et d'autres gauchistes du même cru auraient voulu attacher au jour de l'arrivée de la reine à Québec. Ce fut bien plus tôt, déclare M. Wagner, le samedi de l'extrémisme frustré, de l'émeute manquée. Et le ministre tensa les journalistes qui avaient tout fait pour créer un climat de tension, certains d'entre eux semblant plus intéressés à provoquer de la bataille qu'à recueillir des faits. Puis, une autre ministre, M. Bonin Arsenault, secrétaire de la province, parlant à un banquet où il représentait officiellement le gouvernement provincial, déclara que des gauchistes communisants se sont infiltrés dans un grand nombre d'activités, à Radio-Canada, à la télévision, dans la plupart de nos journaux et de nos organisations politiques, et même, probablement, dans les rangs de la Fédération libérale du Québec. Il demande aux journalistes d'épurer leurs rangs s'ils veulent se mériter le respect que la population du Québec témoignait à leurs prédécesseurs. Au sujet des séparatistes, M. Arsenault précise qu'aujourd'hui, un Québec indépendant ne pourrait signifier autre chose qu'être sous la férule d'une dictature communiste. Et il répète, Québec libre veut dire Québec communiste. Le ministre signale aussi que une fraction des étudiants de nos universités sont les objets de meneurs gauchistes communisants. Du côté des journaux, il faut signaler l'article de M. Lorenzo Paré, directeur en chef, rédacteur de l'Action, dans son numéro du 28 octobre, sous le titre « Une révolution est faite par ceux qui dorment ». Les communistes, écrit-il, ont fait l'inventaire de leurs gains de l'année 1963-64 et se réjouissent de constater que la situation en leur faveur a évolué rapidement. Si rapidement, disent-ils eux-mêmes, que la société québécoise donne l'impression d'une grande confusion, d'une désintégration rapide. Et les bourgeois dorment. À tel point, signale Lorenzo Paré à titre d'exemple, qu'un manifeste révolutionnaire prêchant la prise du pouvoir par la violence au mépris de toutes nos lois criminelles a été mis en vente dans un salon du livre de la catholique Université Laval. En réaction contre la vague séparatiste communisante, prend place la ligne de conduite donnée par le Soleil à ses journalistes. Elle leur fut communiquée par le chef de la rédaction, M. Jean-Charles de la Durantée, en un texte qui serait tout à citer. Nous en donnons quelques passages. M. de la Durantée commence par dire que le journal Le Soleil et l'événement méritent les reproches qui ont été faits par l'autorité depuis, après le passage de la reine. Nous méritons ces reproches, dit-il, et nous devons nous considérer comme coupables. Nous avons fait du jaunisme et du sensationnalisme en cette circonstance. Et il donne des précisions. Par exemple, dans le journal du lundi 12 octobre, alors que les discours de la reine et du premier ministre sont relégués à l'intérieur, on donne à Guy Pouliot les honneurs de la page 3, ce qui n'est pas respecter l'échelle des valeurs, mais faire du jaunisme et du sensationnalisme, dit-il. La même chose quand, dans le Soleil du 19 octobre, on donne un trois colonnes à Pierre Bourgault qui dénonce le rappeur Wagner avant même qu'il soit publié. Ce n'est pas là du journalisme sérieux, conclut-il. Et il donne les directives suivantes, bien précises aux journalistes du Soleil. Toute déclaration des chefs séparatistes indépendantistes ou de leurs acolytes, toute déclaration de quelque personne que ce soit qui prêche la violence ne doit plus trouver place dans nos pages de nouvelles. Au contraire, nous devrions favoriser les mouvements ou les déclarations qui discréditent le séparatisme et l'extrémisme. Ces propos que nous avons cités, comme aussi les déclarations de ministres, celles de Laurent Vauparé, signifient, nous l'espérons, la détermination de faire enfin front à l'ennemi communiste sous le froc séparatiste. Ces réactions, que nous saluons avec satisfaction, ne plaisent pas du tout au journal Le Devoir. Le journal fondé par Bourassa en 1910 semble être devenu le plus grand avocat des révolutionnaires rouges en devenir. Dans Le Devoir du 31 octobre, Jean-Marc Léger trouve effarantes les directives données aux journalistes du Soleil. Il trouve folichonnes les accusations de communisme proférées depuis quelque temps. Il s'en prend avec virulence à l'article de Laurent Vauparé dans l'Action. Rapprochant tout cela des déclarations venues des deux ministres, Jean-Marc Léger se désole que des bien-pensants perdent la tête et donnent dans ce qu'il appelle la chasse aux sorcières. Jean-Marc Léger a déjà montré ses tendances plus d'une fois. Laurent Vauparé, lui répliquant dans l'Action du 2 novembre, rappelle à Jean-Marc Léger l'enthousiasme mis par lui à présenter au public en février dernier le professeur français Jacques Berck, révolutionnaire, philosophe marxiste, encenseur du FLN égorgeur en Algérie et encenseur chez nous du FLQ terroriste. Les signes de réveil que nous avons signalés et dont nous souhaitons qu'ils s'accentuent peuvent bien être mal vus au devoir, car, comme l'écrit M. Paré, la sorcière du devoir mijote dans son chaudron les soporifiques dont sommeillent déjà nos compatriotes. Nous ne sommes guère surpris que M. Léger nous reproche de réveiller ceux qui dorment. Lui fait tout pour les endormir. Félicitations à ceux qui se lèvent pour dire enfin aux pro-communistes de tout craint de chez nous, « Halte là, messieurs, c'est assez. Vous êtes des traîtres et nous le clamerons à tout le pays. »
Nous venons d'entendre, mes amis, M. Louis Évin, le directeur général du journal Vers demain.